Ne n'ai pas compris. Au mieux, nous avons seulement la cause de liberté relative que nous appelons dans notre ignorance le libre arbitre. Mais ceci est illusion jusqu'à la base même, puisque ce sont les mots de la nature qui s'expriment à travers notre volonté personnelle.
Compris. Qu'est-ce que tu veux dire par comprendre? C'est un fait. Il n'y a rien à comprendre. C'est comme ça, nous croyons. Je vous ai expliqué ça je ne sais combien de fois. Vous croyez que c'est vous qui décidez. Ce sont des impulsions qui viennent du dehors. Vous croyez que vous êtes conscient de votre volonté. C'est une conscience qui n'est pas là. Et tout, vous êtes construit entièrement de quelque chose qui est les forces de la nature exprimant une volonté supérieure dont vous êtes inconscient. Seulement, on ne comprend ça que quand on est capable de sortir, ne serait-ce que pour un moment, de son ego. Parce que l'ego, c'est ça qui fait sa force. Il est convaincu que c'est lui qui décide. Mais si on regarde attentivement, on s'aperçoit qu'il est mou par toutes sortes de choses qui ne sont pas là.
Alors, qu'est-ce que c'est que la volonté mentale et vitale?
C'est une expression de quelque chose qui n'est pas personnel. Si l'on analyse avec soin, on s'aperçoit que, par exemple, tout ce que l'on pense a été pensé par d'autres, que ce sont des choses qui circulent et qui passent à travers vous, mais vous n'avez pas élucider cette pensée, vous n'êtes pas l'origine de cette pensée. Toutes vos réactions proviennent de l'atavisme de ceux qui vous ont donné naissance et du milieu dans lequel vous avez vécu. De toutes les impressions qui se sont amassées en vous et qui ont constitué quelque chose qui vous paraît être vous-même, mais qui n'est pas généré par vous, qui est simplement senti, éprouvé. Vous en devenez conscient au passage. Mais ce n'est pas vous qui l'avez créé, je l'avais donné naissance. C'est comme si, n'est-ce pas, les choses sont des bruits quelconques, paroles, musique, n'importe quoi, sont enregistrés par un instrument d'enregistrement. Et puis, c'est re-exprimé par un autre instrument qui répète, comme ça se trouve dans le gramophone. Vous ne direz pas que c'est le gramophone qui a créé le son que vous entendez, ça ne viendra pas à l'esprit. Mais comme vous êtes dans l'illusion de votre personnalité séparée, toutes ces pensées qui traversent notre tête et qui s'expriment, ces sentiments qui traversent votre état et qui s'expriment. Vous pensez que ça vient de vous, mais il n'y a rien qui vient de vous. Où est le vous qui peut créer tout ça? Il faut que vous entriez profondément, 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 et que vous alliez trouver l'essence éternelle de votre être pour avoir la réalité créatrice au-dedans de vous. Et une fois que vous avez trouvé ça, vous vous apercevrez que c'est fini dans tous les autres. Alors, où est-ce que votre personnalité? Il ne reste plus rien. Oui, ce sont des instruments d'enregistrement et de reproduction. Et il y a toujours des... N'est-ce pas? On peut appeler ça des déformations. Ça peut être des déformations pour le mieux. Ça peut être des déformations pour le pire. Ça peut être des changements assez grands pour que les combinaisons intérieures sont telles que les choses ne se reproduisent pas exactement comme elles ont passé de l'un à l'autre, parce que l'instrument est très complet. Mais c'est une seule et même chose qui est mue par une volonté consciente qui est tout à fait indépendante des volontés personnelles. Il y avait, par exemple, quand le Bouddha voulait faire comprendre ces choses-là à ses disciples, il leur disait, toute vibration que vous émettez, par exemple, si vous avez un désir, n'est-ce pas, un désir pour une chose précise, un désir, votre désir va se mettre à circuler de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, à travers l'univers, et tournera autour et vous reviendra. Et comme, n'est-ce pas, ce n'est pas une seule chose, mais c'est un monde de choses, et vous n'êtes pas le seul centre émetteur, toutes les individualités sont des centres émetteurs, ça fait une telle complexité que là-dedans, vous ne vous y reconnaissez plus, mais ce sont des vibrations qui sont dans un champ absolument unique et identique. Seulement, c'est la complication et l'intersection des vibrations qui vous donne l'impression de quelque chose qui est indépendant ou séparé. Mais il n'y a rien de séparé ni d'indépendant. C'est une seule substance, une seule force, une seule conscience, une seule volonté qui bouge avec d'innombrables manières d'être. Et c'est tellement compliqué qu'on ne se rend plus compte. Mais si on fait un pas en arrière et qu'on suit le mouvement, comme ça, on peut très bien s'apercevoir que si vous suivez n'importe quelle ligne de mouvement, eh bien, ça se perpétue de proche en proche, de proche en proche, de proche en proche, et qu'en fait, il n'y a qu'une unité. Unité de substance, comme j'ai dit, unité de conscience et unité de volonté. Et ça, c'est la seule réalité. Extérieurement, c'est une sorte d'illusion. L'illusion de la séparation et l'illusion de la distinction.
Les désirs et toutes ces choses aussi.
C'est pas personnel. C'est pas personnel du tout. Ça, c'est très facile à discerner. C'est de toutes les choses la plus facile à discerner. Parce que 90 fois sur 100, ça vous vient de quelqu'un d'autre. ou d'une certaine circonstance, ou d'un ensemble de circonstances, ou d'une vibration qui vient d'une autre personne, ou de plusieurs autres personnes. Ça, c'est très facile à discerner. C'est la première chose que l'on peut discerner. Que c'est une vibration analogue qui, tout d'un coup, éveille en vous quelque chose. Vous êtes comme, n'est-ce pas? Quelque chose choque en vous, fait un choc, et ce choc produit une réponse. Comme quand vous touchez une note et que ça produit, eh bien, cette vibration de désir vient et vous touche d'une certaine façon et vous répondez. Ce n'est pas très difficile à discerner. Même quand on est petit, même quand on est enfant et qu'on fait bien attention, on s'aperçoit de ça. Par exemple, il y a, n'est-ce pas, on vit dans des suggestions collectives constantes. Je ne sais pas si vous avez assisté à des funérailles ou si vous avez été dans une maison où il y avait un mort. Il faut naturellement que vous observiez un peu, autrement vous ne vous apercevez de rien. Mais si vous observez un peu, vous n'aviez aucune raison spéciale d'avoir du chagrin ou, je sais pas, une douleur quelconque pour la disparition de cette personne. Cette personne, comme beaucoup d'autres, s'est arrivée et par un ensemble de circonstances sociales, vous avez été amené à entrer dans cette maison-là. Là, tout d'un coup, sans savoir ni pourquoi, ni comment ça s'est produit, vous sentez une grande émotion, un grand chagrin, une grande douleur. Et vous, n'est-ce pas, vous vous demandez pourquoi est-ce que je suis si malheureux. C'est tout simplement les vibrations des autres qui sont entrées en vous. Pas autre chose que ça. Et ça, je vous dis que c'est une chose facile à observer parce que c'est une expérience que j'ai eue quand j'étais un petit enfant. Et à ce moment-là, je ne faisais pas de yoga conscient encore. Je faisais peut-être du yoga, mais pas conscient. Et j'ai observé ça très, très clairement. Et je me suis dit, mais certainement, c'est leur chagrin que je sens. Parce que je n'avais pas de raison d'être particulièrement affecté par la mort de cette personne, et tout d'un coup, là, les larmes qui me viennent aux yeux, je me sens comme ça, la gorge serrée, et j'ai vraiment envie de pleurer, et comme si j'avais un gros, gros chagrin. J'étais un petit enfant. Immédiatement, j'ai compris, tiens, c'est leur chagrin qui est venu en au-dedans de moi. La même chose pour la colère, c'est très clair. On reçoit tout d'un coup ça, même pas d'une personne, de l'atmosphère. C'est là, et puis tout d'un coup ça entre, et puis ça vous prend, généralement par en bas, comme ça, et puis ça monte, et puis ça vous pousse, et puis vous allez. Une minute avant, vous n'étiez pas en colère. Vous étiez tout à fait maître de vous et vous n'aviez aucune intention de vous mettre en colère. Et ça vous saisit tellement fort que vous ne pouvez pas résister. Parce que vous n'êtes pas suffisamment conscient. Que vous laissez ça entrer en vous et que ça sert de vous. Vous, ce que vous appelez vous, c'est-à-dire votre corps. Parce que, apparemment, je dis apparemment, c'est une chose séparée du corps de votre voisin. Mais c'est seulement une illusion de nos yeux. Parce qu'en fait, il y a constamment des, ce qu'on pourrait appeler des particules, même physiques, comme une sorte de radiation qui sort des corps et qui se mélange. Et quand on est très sensible, on peut sentir à distance à cause de ça. On dit par exemple que les gens qui sont aveugles, ils développent une telle sensation, un tel, n'est-ce pas, une perception si délicate de la sensation, que quand ils approchent d'un objet, ils sentent un choc à distance. Et on, n'est-ce pas, on peut en faire l'expérience assez facilement. Par exemple, n'est-ce pas, d'approcher de quelqu'un sans faire de bruit, et puis de mettre sa main tout près, et bien il y a des gens sensibles qui le sentent tout de suite. Vous n'avez pas mis de volonté qu'ils le sentent, vous n'avez pas fait intervenir aucun élément psychologique, vous avez fait seulement l'expérience purement physique de vous approcher sans bruit, de façon à ne pas être entendu, et de mettre votre main à une certaine distance. Quelqu'un qui est sensible le sentira tout de suite. Ça veut dire que ça a l'air de s'arrêter là, mais c'est simplement la façon dont nos yeux sont construits. Si nous avions une vision un peu plus subtile, avec une rangée un peu plus étendue, eh bien, nous verrions qu'il y a quelque chose qui sort et que, comme il y a quelque chose qui sort des autres corps, que tout ça, ça se mélange et que ça réagit l'un sur l'autre.
Unité dans la force dynamique.
Dans la force dynamique. C'est ce que je dis, qu'il y a une force dynamique qui fait mouvoir toute chose et quand vous devenez conscient d'elle, vous voyez que c'est une seule et unique force qui fait mouvoir toute chose. Et quand vous êtes conscient d'elle, vous pouvez même suivre son mouvement et vous apercevoir de comment elle travaille à travers les gens et les choses. De la minute où vous devenez conscient de l'unité, comme j'ai dit, de l'unité de la force, de l'unité de la conscience, et de l'unité de la volonté, vous n'avez plus cette perception qui fait que vous êtes tout à fait séparés des autres, que vous ne savez pas ce qui se passe en eux, qu'ils vous sont étrangers, que, n'est-ce pas, que vous êtes enfermés dans votre peau, pour ainsi dire, et que vous n'avez de contact avec les autres que façon tout à fait extérieure et superficielle. Mais ça, c'est parce que justement, vous n'avez pas réalisé en vous la perception de cette unité de conscience, de force, de volonté.
Thank you.
même de vibration matérielle. C'est la complexité qui rend la perception difficile. Parce que la conscience est une, généralement, n'est-ce pas, nos facultés de perception sont très linéaires, très simplistes. Alors si nous voulons comprendre, nous sommes immédiatement assaillis par une quantité innombrable de choses qui sont presque en contradiction les unes avec les autres, qui se mélangent d'une façon tellement complexe qu'on ne peut plus percevoir les lignes et suivre les choses. On entre tout d'un coup dans un tourbillon. Et ça, c'est parce que nous pensons, par exemple, la majorité des gens pense une idée après l'autre, comme ils sont obligés de parler un mot après l'autre. Ils ne peuvent pas dire beaucoup de mots en même temps, n'est-ce pas, ou alors ils vont de mots. Ils sont obligés de dire un mot après l'autre. Eh bien, la majorité des gens pensent comme ça. Ils pensent une pensée après l'autre. Et alors, toute leur conscience marche d'une façon linéaire. Mais on ne commence à percevoir les choses que quand on peut percevoir sphériquement, globalement, penser sphériquement, c'est-à-dire une quantité innombrable de pensées et de perceptions qui sont simultanées. Naturellement, jusqu'à présent, comme j'ai dit, si on veut décrire, on est obligé de décrire une chose après l'autre. Parce qu'on ne peut pas dire 10 mots en même temps. On dit un après l'autre. Et alors c'est pour ça que tout ce que l'on dit, eh bien c'est pratiquement tout à fait incapable d'exprimer la vérité. Tout à fait incapable. Parce que nous sommes obligés de dire une chose après l'autre. De la minute où nous les disons l'une après l'autre, elles ne sont plus vraies. Il faudrait les dire tout en même temps. Comme on peut arriver à les percevoir tout en même temps, et chacune à sa place. Alors ça, c'est quand on commence à voir comme ça, à voir, à percevoir, à sentir, à penser, à vouloir comme ça, alors on approche de la vérité. Mais tant qu'on voit comme ça, comme on parle, où c'est tout pauvreté lamentable.
Nous suivons immédiatement le cercle de fer ou bien d'or et de fer.
Oui, il y a des gens qui ont une vie heureuse et confortable, et il y a des gens qui ont une vie misérable. C'est ça que ça veut dire. Ça dépend des comment dire, des destinées individuelles. Ça dépend peut-être de leur de ce qu'ils ont à faire sur la terre. Ça dépend du stade auquel ils sont. Ça dépend de beaucoup de choses. Il est évident que ce n'est pas eux qui choisissent parce que pour la majorité des hommes, ils choisiraient toujours la même chose. Si on leur demandait ce qu'ils veulent, il y aurait des différences, oui, mais pas si grandes qu'il y en a. Ce serait assez monotone. La majorité des gens veulent être ce qu'ils appellent tranquille. Et ce qu'ils appellent paisible. Avoir une petite organisation à leur dimension, qui est généralement microscopique, et qui consiste à vivre une routine régulière d'activités toujours à peu près identiques, dans un cadre à peu près identique, avec un entourage à peu près identique, et que ça se répète sans trop de différence, suffisamment de variété pour que ça ne soit pas tout à fait ennuyeux, mais rien qui puisse déranger ce cercle régulier qui fait qu'on a ce qu'on appelle une vie paisible. L'immense majorité des gens, c'est leur idéal. Et alors, l'idéal de détail de cette réalisation dépend exclusivement du pays où ils sont nés, de la société dans laquelle ils sont nés et des coutumes de leur entourage. Ils ont leur idéal façonné par l'habitude du pays et de la société dans laquelle ils sont. Et il y a évidemment des exceptions, mais elles ne font confirmer la règle. D'une façon générale, la chose la plus large, c'est, n'est-ce pas, naître dans un milieu suffisamment confortable pour ne pas avoir trop de difficultés dans la vie, se marier avec une personne qui ne vous donne pas trop de tracas, avoir des enfants qui se portent bien et qui grandissent normalement aussi pour ne pas avoir de tracas, et puis avoir une vieillesse tranquille et heureuse où on ne soit pas trop malade pour ne pas avoir de tracas, et puis je vais s'en aller quand on est fatigué de la vie encore parce qu'on ne veut pas avoir de tracas. Au fond, c'est l'idéal le plus répandu. Il y a naturellement des exceptions. Il y a même tout à fait le contraire. Mais ce serait assez monotone l'existence telle que les hommes la conçoivent. Les différences viendraient dans les détails. Parce que dans un pays, on préfère une chose à une autre, dans un autre pays, on en préfère une autre, puis dans la société dans laquelle on est né, on a certaines habitudes et un idéal de bonheur, et dans une autre société, on a d'autres habitudes et d'autres, un autre idéal de bonheur. Mais c'est comme, n'est-ce pas, si on parle à des gens européens, moi, ils vous disent qu'il n'y a rien de plus beau quand même. Que l'Europe et que je connaissais un, j'en ai pas connu un, j'en ai connu des centaines, qui me disait, qui était français, qui disait qu'il n'y a pas de plus belle femme au monde que les Français. Et j'ai connu un nègre qui avait fait toute son éducation en France et à qui on demandait quelle était la femme qu'il considérait la plus belle. Il disait, il n'y a pas de femme plus belle qu'une nègre. C'était tout à fait naturel, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Il n'y a pas de plus belle maison que celle dans laquelle on est habitué à vivre, qui sont les, n'est-ce pas, les maisons du pays où l'on a vécu, l'on est né. Et le paysage, c'est la même chose, la nourriture, c'est la même chose, les habitudes, c'est la même chose. Et pourvu que ça se passe d'une façon suffisamment harmonieuse et sans des coups trop violents, on est parfaitement satisfait. Ça, c'est la mentalité générale. Et on tourne en rond, comme il dit. On tourne en rond, c'est quelquefois un cercle de fer, c'est quelquefois un cercle d'or, mais on tourne en rond, et on tourne en rond, et les enfants tourneront en rond, les petits-enfants tourneront en rond, et puis ça continue. Thank you.